France Musique. Carrefour des Amériques, Marcel Quillé-Véré.
Le Brésil, la musique et le monde, c'est notre premier épisode, Chassé-croisé sur l'océan. Bonjour et bienvenue à toutes et à tous qui nous écoutez sur les ondes de France Musique, de la radio-télévision belge, de la radio-télévision suisse et de Radio-Canada. Merci de nous rejoindre dans cette nouvelle série de Carrefour des Amériques qui va nous emmener cette année au Brésil. Le Brésil qui vit aujourd'hui une période à nouveau bien tourmentée de son histoire. Quand on évoque ce pays, on pense aussitôt à la splendeur de la baie de Rio de Janeiro, à la samba de ses carnavals, aux superbes chansons de la bossa nova et bien sûr aux compositions de Aitor Villa-Lobos. Or, c'est un pays gigantesque qui a une diversité impressionnante de splendeur naturelle, d'architecture, de littérature et de musique à nous offrir. Beaucoup de trésors nous restent donc à découvrir, à nous de jouer les explorateurs durant ces 40 émissions qui nous feront traverser le temps et l'espace du milieu des années 20 jusqu'à 1985 environ. Tout cela au rythme de compositions souvent inattendues et toujours passionnantes. Une histoire en musique, donc, qui nous permettra aussi de mieux comprendre le Brésil contemporain. Au début des années 1920, ce pays commence à fasciner les Européens. Et le poète français Jules Supervielle en rêve déjà, dès qu'il en aperçoit les côtes, depuis le paquebot qui le mène régulièrement vers son Uruguay natal, avant de mieux le connaître à partir de 1930. Le paquebot, depuis 10 jours, avance vers un horizon monocorde. Derrière ce ciel éteint et cette mer grise où l'étrave du navire creuse un modeste sillon, par-delà cet horizon fermé, il y a le Brésil, avec toutes ses palmes, de la douceur en profondeur, un fourré de douceur et de purs ovales féminins qui ont la mémoire de la volupté. Thank you. un grand succès populaire de 1924, l'Ave Maria de Herotides de Campos, par Evandro do Bandolim et son ensemble régional. Cette année-là, le Brésil est en pleine effervescence, et même s'il y a eu des rébellions au sein de l'armée, comme celle qui a été violemment réprimée au fort de Copacabana à Rio de Janeiro, l'économie est florissante. C'est à nouveau le boom du café. De grandes familles de fazendeiros, de planteurs, font fortune, comme celle de Paulo Prado, fils du maire de São Paulo. São Paulo, qui est alors une ville en pleine croissance. Plus au nord, sa rivale, la capitale, Rio de Janeiro, nonchalante et tropicale, semble un peu s'assoupir. Dans tout le Brésil, ces années-là, on entend les musiques d'un compositeur de São Paulo, justement. Il a 32 ans et son nom est déjà célèbre. Et son pseudonyme est indien, Marcelo Tupinambá. Alexandre Dias jouait São Paulo Futuro, le São Paulo du futur de Marcelo Tupinambá, que Darius Milhaud a cité dans son Bœuf sur le toit. Puis Roberto Sidon interprétait son Malandro, le voyou frimeur. C'est vraiment vers 1923-1924 que la relation entre l'Europe et le Brésil se renforce. Notre histoire débute en France ces années-là. Après leur séjour au Brésil durant la Première Guerre mondiale, Paul Claudel et surtout Darius Milhaud ont été les meilleurs ambassadeurs de la culture de ce pays en France. C'est la musique d'inspiration latino-américaine du compositeur français qui l'a d'ailleurs rendu populaire, notamment ses Saudades du Brésil et ses ballets Le Bœuf sur le toit et L'homme et son désir. De leur côté, les artistes brésiliens qui avaient participé à São Paulo à la Semaine d'art moderne en 1922 font enfin le voyage à Paris, précédé depuis des années par les plus fortunés qui y résident régulièrement et sont de fins connaisseurs de la culture française. Parmi eux, les frères Ginley, de grands industriels passionnés de musique. Et ils ont l'audace de diffuser en France la musique de leur pays en finançant le voyage d'un orchestre de musiciens populaires noirs aux grandes dames là-bas de la bourgeoisie blanche conservatrice. C'est l'orchestre Os Oito Batutas, les huit costauds, du flûtiste Pixinguinha et du guitariste Donga, dont les choros et les sambas font sensation en 1922 au cabaret Scheherazade de la rue de Liège à Paris. L'Europe et surtout la France se prennent alors à rêver de plus en plus du Brésil. Et une véritable histoire d'amour commence d'un continent à l'autre. Pixinguinha a la flûte dans sa composition « O Urubu et o Gavião », « Le vautour et l'épervier ». Ces années-là, le poète suisse et français Blaise Cendrars a une influence inattendue sur les mouvements artistiques et littéraires au Brésil. Claudel Emilio avait parlé de lui aux invités cariocas de la légation française à Rio de Janeiro, surtout à Paulo Prado. Son anthologie « Nègre » et le livret du ballet de Darius Milhaud, La création du monde, inspiré d'un mythe africain et créé en 1923 dans des décors de Fernand Léger, sont encensés par la presse brésilienne. À São Paulo, l'écrivain et musicien Mario de Andrade, en découvrant sa poésie, déclare émerveillé « Blaise a éclaté en nous comme une grenade au petit matin ». Quant à Manuel Bandeira, voilà ce qu'il écrit. L'influence de Cendrars sur le groupe qui en 1922 déclenche le mouvement moderniste brésilien a été très grande. Je me souviens très bien de la ferveur avec laquelle nous lisions et relisions ces vers, surprenant pour nous, et qui provoquait en moi-même un frémissement nouveau. Thank you. Darius Milhaud dirigeait ici un orchestre de 19 musiciens dans le premier mouvement de son ballet, La création du monde, sur un argument de Blaise Cendrars, monté pour la première fois au Théâtre des Champs-Élysées en 1923. Cette année-là, plusieurs artistes brésiliens modernistes font donc le voyage à Paris, bien décidés à rencontrer leur cher poète. Parmi eux, l'écrivain et journaliste Oswald de Andrade, qui vient retrouver sa compagne, la jeune Tarsila de Amaral, peintre remarquable qui réside alors en France. Au mois de mai, ils réalisent tous les deux leurs rêves. Ils vont rendre visite à Blaise Cendrars. L'écrivain tombe immédiatement sous le charme de la beauté rêveuse de Tarsila et lie une profonde amitié avec Oswald, qui avait à peu près son âge. Blaise leur fait alors visiter les ateliers de Braque, de Delaunay, de Brancusi, de Chagall et de Fernand Léger, dont Tarsila était devenue une des disciples. Dans leur studio de la rue Égésippe Moreau, à côté du cimetière Montmartre, Tarsila concocte des soirées brésiliennes où tous les amis se croisent autour d'une bonne feijoada de viande de porc ou haricots noirs, d'une compote de bakuri, tout cela arrosé d'alcool brésilien, de pinga et de cachaça. Parmi eux, il y a aussi Jules Supervielle, Darius Milhaud, le chorégraphe Rolf Demarais, Valérie Larbeau et parfois Picasso et Stravinsky. Sans oublier leurs amis brésiliens alors à Paris, le roi et la reine du café, Paulo Prado et Dona Olivia Guedes de Penteado, le peintre Di Cavalcanti, le sculpteur Victor Brecheret et le pianiste João de Souza Lima. Oui, le Brésil est entré en force dans la capitale française. Dans ce Paris, où se croisent Gertrude Stein, Pablo Picasso, Ernest Hemingway, James Joyce, Tarsila et Dona Olivia Guedes de Penteado fréquentent assidûment la librairie d'Adrienne Monnier rue de l'Odéon. Et voilà qu'au mois de juillet débarque le compositeur brésilien Aitor Villa-Lobos. Il vient conquérir Paris et faire découvrir sa musique aux Français. Tout cela grâce au pianiste Arthur Rubinstein et à la cantatrice brésilienne Vera Yannakopoulos, qui ont réussi à convaincre le gouvernement brésilien à Rio de Janeiro de lui accorder une bourse d'État. et aussi grâce au soutien financier de plusieurs mécènes brésiliens, dont Paulo Prado et les frères Guinley de nouveau. Villa-Lobos embarque le 30 juin 1923 sur le navire Île de Groix et s'installe à Paris, dans le studio des Guinley, au 11 place Saint-Michel. Et Tarsila l'invite aussitôt à partager sa fameuse feijoada. Lors d'un de ses déjeuners au studio de Tarsila, raconte le pianiste Sousa Lima, Villa-Lobos est soudain apparu, à peine arrivé du Brésil. Et ce jour-là, on comptait parmi les invités Jean Cocteau, Éric Satie et Blaise Cendrars. Le compositeur brésilien et le poète franco-suisse se rencontraient pour la première fois, avant de passer leur temps à se manquer par la suite dans leurs multiples chassés croisés sur l'océan. Le premier mouvement du Nonetto de Villa-Lobos, créé à Paris lors du second concert consacré au compositeur brésilien le 30 mai 1924 à la salle des agriculteurs rue d'Athènes, non loin du casino de Paris. Roger Wagner dirigeait ici le chœur et l'ensemble américain Concert Arts. À son arrivée à Paris, le compositeur brésilien peut compter à nouveau sur l'aide d'Arthur Rubinstein et de Vera Yannakopoulos qui sont revenus en France. Vera avait épousé Albert Stahl, un avocat parisien fortuné qui deviendra le conseiller juridique de Villa-Lobos. Bientôt, ce dernier lie une belle amitié avec les compositeurs Louis Aubert, Paul Leflem et surtout Florent Schmitt qui le présente à Max Eschick qui va devenir son éditeur. À Paris, Il termine sa suite pour chant et violon qui s'inspire des mélodies populaires du sertão, les terres de l'arrière-pays brésilien. Comme ici, celle que fredonne une jeune fille sur les chemins, on dirait qu'elle est accompagnée d'un violonneux campagnard. Une suite créée lors du premier concert de Villa-Lobos à Paris, le 9 avril 1924, à la même salle des agriculteurs. Gilles Gomez, soprano, Peter Manning, violon, à certain neige, la fille de la campagne du sertão ou de Villa-Lobos, extrait de la suite pour chant et violon qu'elle a terminée à Paris en 1923.
Carrefour des Amériques, une série de Marcel Quilliveré pour les médias francophones publics.
Pendant de longs mois, Villa-Lobos et ses amis travaillent d'arrache-pied à l'organisation des concerts de ses œuvres. De son côté, Blaise Sandrard fréquente régulièrement ses amis brésiliens. Et c'est au cours d'un dîner avec eux le 13 septembre de cette année-là qu'est évoqué pour la première fois un voyage de l'écrivain au Brésil. Tout le monde l'attend là-bas. Oswald propose d'en parler à Paulo Prado qui pourrait l'aider financièrement. Prado est alors un des hommes les plus riches du Brésil. Il a hérité d'une compagnie d'exportation de café et possède de grandes plantations. Historien, très cultivé, auteur de 2 livres importants sur son pays, il aime fréquenter Oswald, qui l'amuse beaucoup. Ce dernier lui propose de rencontrer le poète à la librairie L'Americana de Chadena, quai des Grands Augustins, où, lors de ses séjours parisiens, Paulo Prado aime dénicher de vieux livres ayant trait à l'Amérique latine. Blaise ne lui est pas étranger. La presse de São Paulo consacre régulièrement des articles au poète et Claudel et Millot lui en avaient parlé. Une immédiate sympathie naît entre les deux hommes et Paulo invite tout naturellement Blaise au Brésil.
Thank you.
Minha Terra, mon pays, de Barroso Neto, par Nelson Freire au piano. À Paris, Blaise Andrard se plonge dans des livres sur le Brésil. Il en parle beaucoup avec son ami le peintre Di Cavalcanti. Fin janvier 1924, il fait ses bagages et embarque au Havre à bord du Formose. Dans sa cabine, il écrit une sorte de journal de voyage sous la forme de poèmes transatlantiques qu'il a appelé ses feuilles de route et qu'il éditera à son retour en France. Adieu Europe, l'Europe que je quitte pour la première fois depuis 1914. Je veux tout oublier, ne plus parler tes langues et coucher avec des nègres et des négresses, des indiens, des indiennes, des animaux, des plantes. Les oiseaux qui nous suivaient depuis le Havre disparaissent aujourd'hui. À l'avant, s'envolent des poissons volants que le vent projette sur le pont. La mer est comme un ciel bleu, bleu, bleu. Par au-dessus, le ciel est comme le lac Léman, bleu tendre. Jusqu'à la ligne, c'était l'hiver. Maintenant, c'est l'été. Le commandant a fait installer une piscine sur le pont supérieur. Je plonge, je nage, je fais la planche. Je n'écris plus. Il fait bon vivre. Nous sommes à la hauteur de Bahia. J'ai vu un premier oiseau, un cargo anglais et trois souffleurs au large. Il fait dimanche sur l'eau.
Nunca mais em mim pensou.
Un cargo pointe vers Pernambuco. Soudain, j'aperçois la côte. Elle est semée d'îlots ronds, nus, au milieu desquels nous naviguons depuis 2 jours. Tout le monde est sur le pont. Nous sommes au milieu des montagnes, un phare s'éteint, on cherche le pain de sucre partout. Rio est maintenant tout près. On distingue les maisons sur la plage. Une voix monte du quai. Est-ce que Monsieur Blaise Sandrard est à bord ? Présent. 12 chapeaux s'agitent, je débarque et on me photographie. À Rio, ils étaient tous venus au bateau, a raconté Blaise par la suite. Des poètes notamment, comme le dernier né, Sergio Buarque de Holanda, qui avait l'âge et la témérité de Raymond Radiguet. Ce Sergio Buarque de Holanda, c'était le père du chanteur Chico Buarque. Ce 5 février 1924, l'escale de Rio ne dure que quelques heures. Tout le monde est étonné par la jeunesse de Blaise, il a alors 37 ans. On lui fait faire un tour panoramique de la ville, suivi d'un déjeuner au port. Et le bateau reprend la mer, vers Santos. Successivement, c'était la soprano Lenita Bruno et l'orchestre dirigé par Léo Peracchi dans une modigna du XIXe siècle. C'était par une nuit calme, harmonisée par Luciano Gallet, suivi d'un tango batuque brésilien que ce même Gallet venait de composer. Ligia Amadou dirigeait l'Orchestre national du Brésil. Au port de Santos, c'est cette fois le groupe des écrivains modernistes de São Paulo qui accueille le poète français. La petite troupe rejoint la grande métropole en voiture où les autres amis, les écrivains Oswald de Andrade, Mario de Andrade et le poète Manuel Bandeira lui réservent une joyeuse fête de bienvenue. Blaise est impressionné par la ville. Dans la chaleur de l'été austral, ce sont déjà les préparatifs du carnaval. À São Paulo, il est frappé par le nombre de rues qui portent des noms indiens. Il aime beaucoup leur sonorité. Par exemple, Piratininga, c'est le nom tupi de São Paulo. Ou encore Guarujá. Ou le Paranapiacaba, qui est la Serra do Mar, la montagne qui borde l'océan. Et puis tous ses amis parlent un français impeccable et la France lui semble très présente au Brésil. Quand il parcourt le journal du Correio Paulistano, le courrier de São Paulo, il voit à quel point on connaît bien son œuvre. Et peut-être y a-t-il lu un des énièmes épisodes du feuilleton « Les aventures de Rocambole » dans la série « Les drames de Paris ». Et de la France, il sera aussi souvent question quand, loin de la chaleur étouffante de la ville, Paulo Prado invite Blaise à sa fazenda de São Martinho. Là-bas, le soir, on prend le frais sur la véranda, face à la majesté du paysage à l'horizon infini, qui est, écrit Sandra, un colosse reposant sur les collines, une mer émeraude, un océan profond, sombre, taciturne et comme figé, 3 à 4 millions de caféiers. Voilà donc le décor dressé pour le séjour de Blaise Andrade au Brésil et c'est l'adagio de la deuxième symphonie de Villa-Lobos composée après 1917 qui accompagnait ses premières escapades. l'orchestre de São Paulo, dirigé par Isaac Karapchewski. Quant à Villa-Lobos, il est encore à Paris en mars 1924. Il vient de recevoir une invitation du Portugal pour aller diriger deux concerts à Lisbonne. Rien d'étonnant quand on sait les liens très forts qui unissent depuis toujours l'ancienne puissance coloniale et le Brésil. Il suffit de voir le succès remporté ces années-là dans les théâtres de Rio par les opérettes portugaises. Des opérettes qui venaient de succéder à Lisbonne aux traditionnelles revues musicales et qui étaient influencées, lit-on sur les affiches, par les spectacles du Châtelet à Paris. Une des nouvelles opérettes s'intitule « Fado », tout simplement. Juste après son succès au Portugal, elle est à l'affiche plusieurs semaines à Rio de Janeiro et son évocation des quartiers populaires de Lisbonne arrache plus d'une fois des larmes aux spectateurs. Comme ici, ce garoto da rua, ce gamin des rues, chanté par sa plus grande interprète, Adelina Fernandes, qu'on appelait a fadista lírica, la chanteuse lyrique du fado. À Lisbonne, début mars, Villa-Lobos dirige sa troisième symphonie lors de deux concerts. Puis il est à Bruxelles, le 3 avril. À son retour en France, il rencontre le guitariste espagnol Andrés Segovia dans le salon de la comtesse brésilienne Olga de Moraes Sarmento. Et c'est le début d'une grande amitié. De tous les invités ce jour-là, a raconté Segovia, celui qui a fait le plus d'impression en entrant dans le salon, ça a été Aitor Villa-Lobos. Une tête vigoureuse, couronnée par une forêt vierge de cheveux rebelles. Il s'est approché de moi et m'a dit sur un ton confidentiel « Je joue aussi de la guitare, vous savez. » Hélas, ses doigts ne répondaient plus très bien. Mais le peu qu'il a joué, j'ai compris que c'était un merveilleux musicien. Le 9 avril, C'est enfin un premier concert qui lui est entièrement consacré à la salle des agriculteurs de la rue d'Athènes. Le public, quelque peu désarçonné au début, lui réserve à la fin un franc succès. Mais c'est vraiment lors du deuxième concert le 30 mai que Paris fait la fête à Villa-Lobos. Au programme, plusieurs de ses premières mélodies, dont certaines en français, chantées par Vera Yannakopoulos. Le trio pour hautbois, clarinette et basson, le nonetto et le quatuor symbolique pour chœur et instrument. Mais c'est surtout Arthur Rubinstein qui déchaîne les applaudissements quand il interprète les enfantines de la famille de bébé, à Prole du bébé. Villa-Lobos est comblé. Il a relevé son défi et il retourne heureux au Brésil en octobre 1924. Deux des petites poupées de la famille de bébé de Aitor Villa-Lobos, le Polichinelle et la petite Mulâtresse, interprétées successivement par Arthur Rubinstein et la magnifique pianiste brésilienne Sonia Rubinsky, pour se quitter aujourd'hui et se donner bien sûr rendez-vous dans le prochain chapitre de Carrefour des Amériques, une émission des médias francophones publics réalisée par Béatrice Trichet, à la technique Alexandre Billard, une émission qu'on peut écouter et réécouter en podcast.
À réécouter sur francemusique.fr.